Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Eh bien, l'Himalaya, vous le savez, on l'a appris à l'école, c'est la plus grande chaîne de montagnes du monde et elle renferme les plus hautes montagnes de toute la Terre. Et il y a 14 sommets qui font plus de 8000 mètres et il y en a des centaines qui font plus de 7000. Quelques-uns ne sont même pas cartographiés, on ne connaît même pas le nom, ils sont désignés là-bas par des numéros. Par exemple, on parle du pic 38 ou bien du pic 51 parce qu'ils n'ont pas de nom, ils sont trop loin de toute habitation.
L'Himalaya, vaste contrée où l'on croise des champs de glace, des mers de nuages et des vagues de neige striées par les grandes orgues du vent, pays où l'oxygène est rare, haute sphère réservée à l'élite des alpinistes. Avez-vous quelquefois, calme et silencieux, monté sur la montagne en présence des cieux ? L'Himalaya, c'est une altitude hugolienne où les athlètes prennent le risque de se frotter à l'éternité. Ce soir, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui voulait gravir la montagne et qui est devenue l'une des plus grandes alpinistes au monde, mais elle a failli y laisser sa peau en janvier 2018. Je suis à peu près certain que vous vous souvenez toutes et tous de cette incroyable opération de sauvetage au cœur de l'Himalaya. Elisabeth Revol, c'est elle, vient d'écrire son récit de cette tragédie sur le mont Nanga Parbat. Elisabeth Revol, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et soyez la bienvenue.
Merci.
Et pour vous accompagner ce soir, un professeur de philosophie et d'esthétique, il enseigne à l'Université de Rennes et il est aussi l'auteur d'un essai passionnant intitulé « De l'alpinisme ». Pierre-Henri Frogne, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et soyez le bienvenu à vous aussi.
Merci beaucoup.
Vous êtes bien sur France Inter dans une émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, l'alpinisme, l'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, comme d'habitude, désormais, on commence avec notre intellectuel de la semaine. Ce soir, il s'appelle Gaston Rebuffa, écrivain et grand alpiniste devant l'éternel. Il va nous offrir des propos préliminaires parfaits à notre récit du jour, à savoir, la montagne peut-elle avoir des désirs morbides? Question pleine de sens, vous allez voir. Alors, s'il te plaît, Rebuffa, raconte-moi l'alpinisme. Peut-on personnaliser la montagne?
Il faut surtout pas personnaliser la montagne. La montagne, c'est du rocher et de la glace qui réagit logiquement, comme toute portion de terre, au vent, au soleil, au froid et au chaud. Mais dire que la mer est cruelle, dire que l'Alpe est homicide, c'est stupide, ça ne veut rien dire. C'est une façon d'ailleurs, en personnalisant, dire par exemple, moi je me souviens de certains titres dans des journaux un peu à sensation, disant « l'Annapurna réclame ses victimes ». C'est une monstruosité, c'est parfaitement stupide. L'Annapurna ne réclame rien. Si nous, on n'y va pas, l'Annapurna n'a jamais rien réclamé. La montagne, elle est telle qu'elle est. C'est une pente de neige. Cette neige est soumise, tout logiquement, au travail du soleil, depuis le matin jusqu'en fin de journée. Cette neige, alourdie par le soleil qui l'aura réchauffé, va tout logiquement, tout normalement, couler en avalanche. Que celles-ci, dans cette pente de neige, sont insérées, prisonnières, des pierres. Que ces pierres, libérées par la neige, ramollies par le soleil, vont donc, par pesanteur toujours, tomber. Et c'est parfaitement normal, c'est parfaitement logique, l'alpiniste doit le savoir. C'est un des plaisirs d'ailleurs, c'est pas seulement de grimper l'alpinisme, c'est le plaisir aussi d'être parent avec la neige, avec le soleil, avec le chaud, le froid.
Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Antoine, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait apporté. portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yannick, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yannick, Natacha et moi.
Yvan, Boris et moi, chanson en hommage à Marie Laforêt, dont nous avons appris la mort cet après-midi. Tristesse et désolation. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Au mur de sa chambre, adolescente, dans la Drôme, Elisabeth Revol avait affiché un poster de l'Everest. Un horizon lointain, une attraction irrésistible. Le virus des cimes. 20 ans plus tard, est devenue la première femme au monde à enchaîner en 16 jours 3 sommets de plus de 8000 mètres sans porteur et sans oxygène, un pur style alpin, une prouesse. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes alpinistes du temps présent. Et pourtant, en janvier 2018, Elisabeth Revol a bien failli ne jamais redescendre. En grande difficulté dans l'Himalaya, après 3 jours d'enfer sur le Nanga Parbat, elle fut sauvée par 2 héros.
Deux alpinistes, Denis Urubko et Adam Bielicki. Un hélicoptère vient les chercher sur le K2 voisin. Ils sont alors en pleine ascension. Ils sont déposés le plus haut possible, le plus près possible des deux alpinistes en perdition. En une dizaine d'heures, ils grimpent 1000 mètres de dénivelé, un véritable exploit jusqu'aux retrouvailles. C'était dimanche à 2h du matin.
Elisabeth, reste ici.
Les deux hommes viennent de retrouver Elisabeth Revol. L'alpiniste française a passé un peu plus de 2 jours en enfer. 2 jours de descente, sans tente ni nourriture, dont une nuit dans un abri de fortune. Il y a désormais très peu de chances de retrouver vivant Thomas Makiewicz, 43 ans, alpiniste chevronné et compagnon de cordée d'Elisabeth. L'homme souffre très vite de gelures et d'ophtalmie des neiges. Sa situation se dégrade. Il a des œdèmes pulmonaires et cérébrales qui obligent Elisabeth à l'abandonner. Une décision terrible mais salutaire puisqu'elle permettra à Elisabeth de s'en sortir. Et c'est une nouvelle ligne dans l'histoire dramatique de l'himalayisme. En juin dernier, un Espagnol et un Argentin sont morts dans une avalanche sur les pentes du même sommet, le Nanga Parbat. Nanga Parbat en népalais signifie montagne tueuse.
Ma tragédie au Nanga Parbat, c'est le sous-titre de votre récit, Elisabeth Revol. C'est publié chez Artaud, éditions Artaud. À la lecture, il y a 3 sentiments qui s'entremêlent en vous, je trouve. Évidemment, la joie, le soulagement d'avoir survécu, la culpabilité d'avoir dû abandonner votre compagnon de cordée tout là-haut. Et puis, ce désir addictif des sommets, le désir d'y retourner quelque part. Aujourd'hui, lequel de ces sentiments domine en vous, Elisabeth Revol ?
Le côté addictif d'y retourner, parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est mon équilibre de vie dans tous les cas, c'est mon école de vie, et c'est l'endroit qui fait que j'existe, dans lequel j'ai toujours existé, et ça m'a reconstruit au retour du Nanga Parbat. Et si aujourd'hui je peux en parler, si j'ai pu écrire, si j'ai pu poser les mots sur toutes ces choses, c'est que je suis aussi retournée en montagne et que ça a été ma thérapie.
Et oui, le livre d'ailleurs s'ouvre sur le fait que vous avez conquis l'Everest. C'est-à-dire que vous êtes, après Nanga Parbat, vous êtes parti dans une grande expédition pour aller au sommet de l'Everest.
Complètement, c'est ce qui m'a sauvé en fait pendant toute cette phase où on est simplement dans la culpabilité, dans les remords, dans les si, dans tout ce conditionnel qu'on ne maîtrise plus mais qui fait partie du passé mais dans lequel on rumine en fait en permanence. Et clairement, oui, l'Everest, c'est ce qui m'a sauvé.
Pierre-Henri Frogne, vous êtes professeur d'université, d'esthétique et de philosophie. Vous êtes aussi alpiniste, amateur, mais alpiniste néanmoins. Cette zone-là, Pierre-Henri Frogne, qui est au-dessus de 7000, 8000 mètres, c'est comme une quête du Graal pour les alpinistes. C'est une altitude qui est quand même extraordinaire.
Alors écoutez, D'abord, je suis, vous l'avez précisé, un alpiniste amateur qui n'est jamais monté au-dessus de 4810 mètres.
Le Mont Blanc, donc.
Le Mont Blanc. Et puis, ça, depuis une petite vingtaine d'années, je fais des sommets dans le massif du Mont Blanc, dans la chaîne des Alpes, en France, en Italie et dans le Valais suisse essentiellement. Bon, donc je suis un enfant par rapport à Elisabeth, un tout petit enfant. Évidemment, je ne sais pas ce que c'est de monter à 7000 mètres, 7500 mètres d'altitude. Je sais qu'on l'appelle la zone de la mort parce que l'absence d'oxygène est telle que les fonctions vitales se dégradent. La capacité du cerveau à analyser, à comprendre, s'abaisse très dangereusement. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'Elisabeth quand elle était à 90 mètres sous le sommet du Nanga Parbat? Sans doute que non, mais je sais ce que c'est d'être tout près du sommet, je sais ce que c'est que le désir du sommet, que la fascination du sommet, qui peut d'ailleurs être dangereuse même dans les Alpes. Quand on est très fatigué, quand le temps est incertain. Alors, effectivement, je sais ce que c'est, mais je ne saurais dire véritablement le mystère qu'il peut y avoir dans cette aspiration par le sommet.
Elisabeth, c'est quoi le mystère? Est-ce qu'on peut répondre ce soir en quelques mots ce que vous appelez le virus de la grimpe? Qu'est-ce que vous allez chercher tout là-haut? Qu'est-ce qu'on va chercher quand on grimpe aussi haut, Elisabeth Revol?
C'est vraiment compliqué, en fait, à dire ce type d'émotion et à trouver les mots par rapport à ce type d'émotion, parce que c'est tellement fort, tellement intense, moi, j'ai même du mal, en fait, à trouver mes mots. Clairement, à 90 mètres du sommet, moi, ce qui m'a submergé, c'est l'émotion. L'émotion que allait procurer, justement, cette ascension, la finalité de cette ascension et le sommet. Et ça, on y a goûté. Et une fois qu'on y a goûté, eh ben, on en veut encore, parce qu'on sait combien ça transcende le corps. Combien ce qu'on vit là-haut, c'est notre Graal depuis des années, c'est ce qu'on recherche. Et
vous parlez aussi d'émerveillement de l'enfance dans le livre.
Complètement.
Comme les premiers jours où on découvre le monde en réalité.
Exactement, exactement. C'est grimper dans tous les cas, on retombe dans l'enfance et dans cet émerveillement. Dans cet émerveillement qui est...
Oui, j'aimerais prendre un mot sur cette enfance.
Je pense que l'alpinisme a à voir avec l'enfance, avec les randonnées de l'enfance, avec la capacité qu'a l'enfant de s'agripper, de monter aux arbres pour faire des cabanes, etc. Dans l'alpinisme, il y a une part de jeu. Inévitablement. Alors moi, je parle de l'alpinisme amateur. Et évidemment, quand on est un professionnel, ce jeu devient très sérieux parce que il engage très loin. Il engage la vie, il engage de l'argent, des fortunes, des entreprises, etc. Moi, quand je fais de l'alpinisme, je n'engage que mon guide qui me garde et me sauvegarde et me ramène à bon port. Mais ce que je sais, c'est que quand on est en haute montagne, on est dans un univers qui est barré, interdit, qui est dangereux, non fiable. C'est pas un univers tueur, comme disait à juste titre Ré Buffa. C'est un univers qui n'est pas fiable, qui est éminemment dangereux, dans lequel on risque effectivement de mourir si on fait une chute. L'ascension au sommet est quelque chose de très lent, même dans les Alpes, et surtout pour moi qui suis un alpiniste lent. Hein. Bon, il m'a fallu 11 heures pour aller du refuge au refuge pour monter le Grand Combin dans le Valais suisse qui culmine pourtant qu'à 4300 mètres. Bon, pour moi c'est difficile, c'est lent, et quand on arrive au sommet, on vit une expérience qui est étonnante. Celle d'une libération. C'est un univers où on est enfermé dans la glace, on est enfermé dans le rocher qui vous surplombe. Même quand on est sur une arête aérienne, on est quand même très attentif à ce qui se passe autour. Et quand on arrive au sommet, se libère l'espace. Le sommet, c'est le seul endroit plat de la course, d'une part. Et d'autre part, quand on est au sommet, il n'y a plus que de l'air. Il n'y a plus que du gaz, comme on dit dans le monde de l'alpinisme. Il n'y a plus que du vide. Et à bien des égards, on est comme un oiseau. excusez-moi, je suis professeur de philosophie, donc je ramène ma culture philosophique. Quand Nietzsche, dans Ainsi parle Zarathoustra, parle de l'arrivée au sommet, Zarathoustra dit que il arrive dans le ciel et il devient au-dessus de lui-même. Stéphanie Baudet a fait qui est une alpiniste professionnelle, par rapport à laquelle je suis aussi un enfant, un nain et un microbe. Mais elle a fait un livre dont le titre est magnifique, À la verticale de soi. Ça ne veut pas dire au-dessus de soi. Ça veut dire, comment dirais-je, bien dans son axe, dans la conscience qu'on a de soi-même, dans la conscience du moment extrêmement fort que l'on vit, et qui est un moment de libération.
À la verticale de soi.
Ouais.
Elisabeth Revol, revenons à cette ascension de 2018. Alors pour bien comprendre, on ne monte pas en une seule fois, évidemment, jusqu'au sommet. Il y a des camps de base, des bivouacs, on y va par palier, par étape. Votre dernier bivouac, le camp 4, était à 7380 mètres, en sachant que le Nanga Parbat monte à 8125 mètres. Donc ce 25 janvier au matin, le temps permet de monter avec votre compagnon de cordée, Tomek. Bon, vous partez tous les deux, vous allez monter, tenter cette ascension hivernale, dans le style alpin, c'est-à-dire sans oxygène, sans porteur, sans corde. On monte tous les deux. Ça se passe très bien, la journée est très belle. Vous arrivez au sommet vers 18h, si je ne dis pas de bêtises, 18h30. Donc là, on imagine à la verticale de soi, une émotion splendide. Et puis, Elisabeth, il se passe tout de suite une bascule, un enfer immédiat. Tomek est frappé de cécité. C'est-à-dire que très très vite, il vous dit « Je ne vois plus rien, Elisabeth ». Comment c'est possible, ça, Elisabeth, déjà ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Tomek, pensez-vous ?
Comment c'est possible ? C'est encore des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais ça peut être la cécité des neiges. Donc,
Ça, c'est quoi, la cécité des neiges ?
C'est-à-dire qu'il arrive et il est aveugle. Donc, ça peut être qu'il n'a pas mis ses lunettes, en fait, pendant la journée. Donc, c'est simplement la brûlure, en fait,
de la rétine.
Ça peut être dû au froid, parce qu'il faisait extrêmement froid là-haut. Et quand on a reçu le vent, en fait, sur l'arête, il a très bien pu faire un gel de cornée, ou c'est clairement un début d'œdème. Donc c'est trois facteurs qui sont possibles, et moi à ce moment-là, je sais qu'il est aveugle tout de suite dans ma tête, il n'a pas mis ses lunettes, donc c'est pour ça qu'il est aveugle. Mais c'est des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse, parce que finalement, après, vu comme ça s'est enclenché, à la vitesse à laquelle c'est allé, c'est peut-être très certainement un début d'œdème à ce moment-là.
Ce qui est étrange, Elisabeth, c'est que quand on lit votre récit, qui est passionnant, je le dis, nous quand on est ici, en France, en train de lire ce livre, on se dit, mais elle ne comprend pas l'urgence de la situation. On se dit, mais en fait, il est aveugle, c'est foutu, ils sont foutus tous les deux. Mais vous expliquez une chose très intéressante, c'est que vous dites qu'en fait, votre cerveau repousse la mort. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien que la mort arrive très vite, enfin, le danger de la mort, je veux dire, tellement vous êtes loin, haut, perdu, tous les deux, sans secours, lui est aveugle, comment va-t-on faire? On lit le livre, on se dit, mais en fait, ils vont mourir, enfin, il va mourir. Mais en fait, votre cerveau vous interdit ça, parce que c'est une question de survie. Vous dites, j'ai cru jusqu'au bout.
Exactement.
Parce que sinon, j'aurais été foutu moi-même, en fait. C'est
exactement
bien ça.
Mm-hmm. Quand on est dans des situations, en fait, comme ça en montagne, si on perd l'espoir, c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est sûr que je me suis effondrée. Au sommet, je me suis effondrée, il y a l'adrénaline qui a joué, voilà. Mais après, à partir de ce moment-là, soit on se projette et on se dit, OK, on y va par étapes. Et en premier, on rejoint le couloir, et puis ensuite, on rejoint la zone mixte. Et en fait, du coup, j'ai fractionné, j'ai instauré une espèce de routine en me donnant des objectifs qui n'étaient pas trop loin. Et ça, c'est obligatoire. Sinon, si on se donne le camp de base, c'est terminé. Parce qu'on ne sait pas dans combien de temps on va y arriver. On sait que ça va être terrible. Mais en fractionnant les choses, ça permet de sauver. Ça permet de rester dans une positive, dans une dynamique positive. Et si on croit à la vie et qu'on a cet espoir à la vie, c'est ce qui nous fait tenir. Et moi, c'est ce qui m'a fait tenir tout le long de cette descente.
C'est quasiment inconscient, c'est ça qui est incroyable. Puisqu'en fait, ça vous dépasse, en fait.
Ça me dépasse complètement.
Oui, oui.
Je pense que c'est des mécanismes
de survie
qui se mettent en place. Après, quel mécanisme exactement, je ne sais pas. Mais oui, c'est clairement des mécanismes de survie.
Pierre-Henri Franck.
Oui.
Vous avez lu le livre, Pierre-Henri.
Oui, mais bien sûr, c'est un récit extrêmement touchant qui produit une sorte de compassion, de sympathie très très forte de la part du lecteur, parce qu'on vous accompagne dans cette épreuve terrible, et même dans l'épreuve de votre ami
Tomek.
Tomek. C'est aussi un récit qui fait peur pour soi-même, c'est-à-dire qui fait peur qu'on soit alpiniste ou pas d'ailleurs, parce que on se met à votre place, donc on sympathise, on a de la pitié pour vous, mais la pitié au sens philosophique du terme, c'est-à-dire trembler pour autrui. Il faut pas avoir le sentiment que le sentiment un peu comment dirais-je,
pathos,
un peu dévalué que la pitié aurait aujourd'hui. Et puis on tremble pour soi-même parce que on se met à votre place. Et puis troisième sentiment que votre récit donne, c'est un sentiment d'admiration, de respect pour ce que vous avez réussi à faire, que peu de personnes seraient parvenues à faire, parce que effectivement vous avez, alors vous n'avez pas dépassé vos limites, parce que j'y crois pas trop au dépassement des limites. Je crois à l'étirement des limites. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des élastiques et donc nous tirons nos limites avant que ça casse. Et évidemment, alors effectivement, nous prenons conscience de nous-mêmes dans des efforts qu'on ne pense pas être capable de produire. C'est ça la grandeur de votre récit et la grandeur de l'alpinisme au-delà de votre cas qui est effrayant.
Il y a aussi de l'effroi dans le récit.
Ah ben oui,
il y a de l'effroi, Pierre-Henri.
Ah ben oui,
on est effrayé par ce qui s'est passé. Et
ça produit de la pitié et de la frayeur.
Oui, bien sûr.
Mais ça produit aussi de la réflexion. Et la réflexion, elle vient quand on se demande comment effectivement vous avez pu pour repousser les limites. Et vous avez raison. Évidemment, je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais dans mes petits efforts à moi, qui sont très grands à ma mesure. Je sais bien qu'il ne faut jamais penser au sommet, il ne faut jamais penser au retour, il faut se donner des limites faisables,
pas à pas,
marche après marche, planté de piolet après planté de piolet, parce que sinon on n'y arrive pas.
Exactement.
Quand on est en bas de la montagne, quand on est au refuge et qu'on garde le sommet, on se dit on n'y arrivera jamais, je n'y arriverai jamais. Et puis, par miracle, on y arrive.
Elisabeth, vous parliez tout à l'heure d'émerveillement, d'un désir mystérieux de gravir la montagne. Chez Tomek, il y avait une dimension un peu mystique. Il avait un rapport spirituel à la montagne, vous en parlez très bien dans le récit. C'était un rapport un peu différent du vôtre. Vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'il venait chercher, Tomek, dans la montagne, notamment dans ce Nanga Parbat?
Tomek, il avait une quête mystique sur cette montagne. Donc, il était rentré dans la légende de Féri. Donc Féri, c'est une divinité qui est sur cette montagne, qui est partagée avec la population locale, qu'on soit sur tous les versants de la montagne, et qui est extrêmement forte en fait dans la vallée. Et cette montagne, elle est habitée par une fée, donc Féri, et donc il allait clairement à sa recherche.
Et ce qui est assez étrange,
c'était une quête assez mystérieuse,
oui,
mais extrêmement mystérieuse.
Voilà. Et dans le récit, parfois que vous faites, il y a à la fois, vous évoquez cette fascination qu'il a, et parfois un agacement aussi qui peut poindre, parce que vous vous dites peut-être que cette quête mystique est venue contrarier des protocoles de sécurité et qui vous ont mis en danger tous les deux, et aussi peut-être vous devez porter cette curiosité-là aujourd'hui vous toute seule, mais vous êtes un peu en colère parfois dans le récit, non?
Pour moi qui suis très terre à terre, forcément cette quête mystique m'a déstabilisée, même si des fois je suis rentrée avec lui en fait dedans, et ça a éveillé aussi ma curiosité, ça m'a fait voir aussi autre chose. Mais à un moment donné, tout confier à Ferry et toutes les décisions par rapport à la météo, par rapport à l'itinéraire, par rapport à des choix, ça m'a moi vraiment déstabilisée par mon côté vraiment, comme je dis, terre à terre. Donc oui, il y a eu des moments au retour où j'étais vraiment en colère par rapport à ça.
Oui, je pense que la colère est quelque chose de bénéfique en montagne. Je le vérifie aussi. Il faut se fâcher.
Eh oui. D'ailleurs, c'est vrai, parce que
contre
la colère
la montagne,
d'Elisabeth fait qu'elle
contre
elle résiste.
Essentiellement. Et contre le milieu qui est un milieu inhumain, enfin en tout cas non humain, sauvage, brutal. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi la beauté de l'alpinisme, c'est d'être en relation avec la brutalité, la sauvagerie, l'immédiateté de la nature. D'une nature, comme le disait Rébuffat en commençant, qui n'a rien demandé, qui est là, qui est idiote même, au sens où elle est là, et elle n'a pas de pourquoi. Elle est sans pourquoi. Elle est sans raison. Et il n'y a pas beaucoup d'occasions dans la vie d'un homme d'être en relation avec la nature, dans sa brutalité, dans sa sauvagerie. En mer, face à la tempête, dans le désert et dans la montagne. Parce que dans nos villes, on est entouré d'objets qui ont des pourquoi, qui ont des significations, qui ont des buts, qui ont des finalités. Et donc on vit dans un monde humain, on ne vit pas dans un monde sauvage. Et la relation que l'homme a avec la sauvagerie de la nature est pour moi aussi une sorte de ressourcement. Je vois que c'est ça aussi qui me fait monter en haut des montagnes. C'est évidemment une relation à soi et à l'extériorité de la nature, mais dans un affrontement qui fait que, alors on est en colère, et qui fait qu'on s'affronte. Un affrontement, c'est aussi une lutte. Je pense qu'il y a un horizon guerrier de l'alpinisme. Je sais que dans votre livre, vous dites « j'aime pas ça
oui, ». Oui,
moi
oui,
non plus, j'aime pas ça. Mais je crois qu'il y a ça. On est dans l'univers de César, de Tite-Live, où il y a des places à prendre. Mmh. Il y a le moment décisif où il faut attaquer, où il faut traverser les lignes. Il y a de la brutalité. Il y a de la violence. C'est pas pour la justifier. C'est simplement pour dire les choses comme elles sont.
18h36 sur Inter. On va continuer à causer d'alpinisme juste après le retour de l'orchestre armé, cette fois par Hervé, jeune artiste qui a failli devenir footballeur, paraît-il. Le titre joué, Cœur poids plume, ainsi soit-il.
Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me soutiens plus. Ah ouais, ces maudites paroles. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime. Fais le point sur les étures, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à l'pouls qui va plus, j'ai le cœur quoi plus. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur quoi plus, le cœur quoi. Le cœur pas plume, le cœur pas plume. Le réseau ne répond plus. Pourquoi l'ego d'un coup s'évade. Aussi loin que je me souviens plus. Je me souviens plus. Toujours rater les ruptures. Comme c'est beau la rage qui pulse dans sa voix. Aussi loin que je me souvienne un jour j'ai su. Pourquoi pour toi j'en crève, je me souviens plus. Je fais le point sur les ratures, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci par-là. Je sais pas sauter d'un train qui déraille.
Et c'est un sauvetage à peine croyable qui vient de se dérouler dans l'Himalaya.
Celui d'une alpiniste française de 37 ans. Elle était partie à l'assaut de l'un des sommets les plus élevés de la région en compagnie d'un confrère polonais. Deux alpinistes très expérimentés, mais une fois arrivés au sommet, la descente a tourné au calvaire, victime d'un œdème pulmonaire et cérébral. Son collègue ne peut plus avancer. La française lance un appel au secours. Elle est à ce moment-là à plus de 7000 mètres d'altitude. Il fait moins 30 degrés et c'est une équipe polonaise qui est venue voler à son secours.
Philippe Colin sur France Inter.
Après 3 jours et 3 nuits, dans un enfer de froid extrême, le 28 janvier 2018 à 2h du matin et à 6000 mètres d'altitude, Elisabeth Revol, alpiniste chevronnée, fut donc secourue par deux sauveteurs polonais. Un miracle. Elisabeth a survécu, à la différence de cette aristocrate de la montagne, une pionnière, elle s'appelait Claude Cogan, écrivaine et alpiniste française, attirée elle aussi par l'Himalaya. Nous étions à l'automne 1959, il y a juste 60 ans.
Pierre Ichac, quelques dépêches qui nous sont parvenues nous laissent quelques inquiétudes sur l'aventure de Claude Cogan dans l'Himalaya.
Eh bien oui, l'inquiétude règne depuis ce matin sur le sort de cette toute petite femme charmante qui est aussi la femme la plus haute du monde. On sait qu'à la tête de la première expédition himalayenne entièrement féminine, elle s'attaquait dans l'Himalaya à un sommet de 8189 mètres où elle avait échoué en 1954, le Chooyu. Un message qui a quitté le camp de base par porteur le 11 octobre, il y a 6 jours, et vient de parvenir à Katmandou, capitale du Népal, précise simplement que Claude Cogan, après avoir établi à 7800 mètres d'altitude, soit à quelques 400 mètres en dessous du sommet, le camp terminal, aurait été surprise par la tempête, peut-être au cours de l'assaut, en compagnie de l'alpiniste belge Claudine van der Straten et de deux Sherpas. Depuis, elle n'aurait plus donné de ses nouvelles. On ne sait rien de plus. Et nous ignorons même si une amélioration du temps a permis ou non des reconnaissances ultérieures jusqu'au camp de 7800 mètres. Cette expédition féminine dans l'Himalaya, où les deux filles et la nièce du fameux Tenzing voisinaient avec deux Françaises, une Belge, trois Anglaises, une Suissesse, a été le grand rêve de Claude Cogan et, sauf erreur, sa 6e grande expédition hors de France.
Claude Cogan n'a pas survécu à cette expédition en 1959. Elle a été emportée par une avalanche. Elisabeth Revol, votre sport, l'alpinisme, inclut cette dimension mortelle, fait partie du sport. En tout cas, on y pense. C'est pas tous les sports qui ont ce degré de risque, ce risque-là. Dans les 3 nuits que vous avez dû passer dans cette descente aux enfers pour être secouru finalement le 28 juin 2018, il y a la deuxième nuit, votre deuxième nuit que vous racontez dans ce récit, où là vous frôlez réellement la mort dans un état un peu léthargique. Est-ce que vous nous racontez un tout petit peu cette seconde nuit, dans quel état vous étiez?
C'était un moment vraiment particulier, en fait, où je savais que les secours n'arrivaient pas. Je devais m'isoler une deuxième nuit. J'avais rien pour m'isoler. Il fallait que je me protège du froid. On avait déjà passé, en fait, plus de 48 heures déjà sur la montagne. Donc, clairement, j'arrivais à un état d'épuisement corporel, un épuisement mental. Et il fallait que je lutte, en fait, pour pas dormir à ce moment-là. Et là, j'ai été parcourue par pas mal de pensées, pas mal de choses. Et donc, j'étais dans comment survivre simplement dans cette étape. Et à un moment donné, la tête a simplement lâché parce que le corps était épuisé.
Et vous commencez à rêver.
Donc là, je commence à rêver. Ouais. Mmh. Je commence à rêver en fait de chaleur, tout simplement parce que j'avais besoin de chaleur à ce moment-là. Donc, je rêve à une vieille dame qui m'amène du thé chaud et qui me propose ce thé chaud pour me réchauffer à ce moment-là et très certainement aussi pour me réveiller et m'extirper un petit peu de
cette léthargie,
qui allait être fatale si je continue à ce moment-là, quoi.
Et vous avez perdu une chaussure cette nuit-là.
C'était particulier parce que c'est un moment où j'ai aussi enlevé ma chaussure parce que la vieille dame me l'a demandé en offrande, mais j'avais aussi un feuillet d'aluminium qui me tenait froid sur ce pied-là.
Donc dans votre rêve, la vieille dame vous a demandé en offrande la chaussure.
Exactement.
En échange du thé.
En échange du thé.
D'accord. Donc, dans un rêve.
Mmh.
Mais là, on voit l'éthargie, enfin, du coup, le
voilà, degré. Mais c'est un sommeil paradoxal.
Oui, bien sûr.
Moi, voilà, je rêve, mais je suis quand même présente. Donc, je commence, en fait, à enlever ma chaussure et retirer ce feuillet d'aluminium qui me tient extrêmement froid et je pose la chaussure. Et heureusement, je le fais pas pour la deuxième. Parce qu'après, je suis épuisée, donc je repars, en fait, à m'allonger et à me reposer.
Mais ce qui est délirant, c'est que vous allez encore passer 24 heures avec une seule chaussure.
Ah non, je l'ai récupérée après ma chaussure dans
d'accord.
la crevasse. Après, je l'ai envoyée au fond de la crevasse et le lendemain, je suis redescendue la chercher.
D'accord, parce que je trouvais ça incroyable. Je ne savais pas comment c'était possible. Vous avez récupéré la deuxième chaussure, d'accord. Pierre-Henri, c'est vrai que cette deuxième nuit, le récit, il est encore effroyable et on a une grande pitié pour Elisabeth
Revol. C'est là que le récit atteint son acmé, d'une certaine façon. Mm-hmm. Bon, alors on sait que ça se termine bien, parce qu'on a écouté la radio, et puis on lit le livre qui a été écrit. Mm-hmm. Mais c'est là qu'effectivement, on est à l'instant décisif. Et effectivement, tous les témoignages des gens qui sont comme ça dans des situations de perdition extraordinaire en haute montagne disent que le plus dur, c'est pas de s'arrêter et de se reposer. Le plus dur, c'est de lutter contre le sommeil qui va vous prendre et qui va vous faire mourir. Il y a un très beau film d'Akira Kurosawa qui s'appelle Dreams. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un ensemble de petits films. Et je crois que c'est le troisième dans ce film-là qui met en scène la lutte de quatre alpinistes dans la tempête. Et il y a le premier de cordée qui essaye de réveiller ses trois compagnons qui sont épuisés. Et puis lui s'abandonne. Et on voit une femme qui essaye de le réchauffer comme une sorte de fée, comme une sorte de déesse. On comprend que c'est la mort. Et puis lui fait un ultime effort pour se dégager de l'emprise de cette femme. En se dégageant, la tempête cesse et ils s'aperçoivent que le bivouac est à quelques dizaines de mètres d'eux. C'est exactement ça. Dreams, c'est des rêves. C'est des rêves à l'intérieur de rêves. Car cet alpiniste, il rêve. Et chaque film sont pensés comme des rêves d'Akira Kurosawa lui-même. C'est des rêves de rêves. Et c'est très prenant, effectivement.
Elisabeth Revol, en lisant votre récit, je me suis dit que, en effet, vous exprimez encore aujourd'hui ce désir addictif de grimper, d'aller chercher quelque chose là-haut, de mystérieux, de vous déconnecter aussi de la terre à terre, on va dire, voilà. Mais en même temps, je me disais, à pousser aussi loin tout le temps les limites, ça fait aussi écho à une société très performative. Vous voyez, un côté performance totale. Vous pourriez aller à 7000 mètres, ne pas inquiéter votre mari, par exemple, qui est un homme admirable, comme ce que vous lui imposez des choses pas faciles, de disparaître dans la montagne comme ça, très haut. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu étrange là-dedans. C'est-à-dire que on a l'impression que l'alpinisme fait aussi écho aujourd'hui à la société de grande performance totale.
Oui, complètement. C'est moi ce que je me suis rendu compte à mon retour, où j'ai passé des mois à réfléchir sur ma pratique, sur les dérives de cette pratique. Et cette année, je suis retournée en fait en montagne sans prendre de risque, où j'étais sur un 8000 classique, sur une voie normale, où il y avait du monde sur la montagne, où il y avait des cordes, où il y avait de l'oxygène, il y avait des sherpas. Et c'est une pratique qui me va très bien. Et j'ai pas envie d'aller dans une ouverture de voie, dans une hivernale ou dans des choses que je suis allée explorer dans le passé, mais où maintenant j'en ai vu la limite. Parce qu'effectivement, on est poussé par cette performance. Et à la fin de mon récit, je dis, mais est-ce que réellement cet objectif, c'était le mien, ou est-ce que j'ai été poussée par tout un tas de choses que j'ai lues, que la société impose? Et c'est une réflexion qui est très saine à avoir dans cette pratique-là, parce qu'on expose notre vie quand on va en montagne.
Pierre-Henri Franck, nous vivons dans une société de la performance, de l'exploit et de la démesure, le débordement au-delà de toute limite, hein, c'est ce que les Grecs appellent l'hubris. Bon, notre société est une société d'hubris. Platon disait déjà dans la République que l'homme était un être d'enflure. Bon, nous n'avons jamais cessé d'être des êtres d'enflure, si je puis m'exprimer ainsi, de manière complètement déraisonnable, de manière un peu folle. D'une certaine manière, le sport contemporain a renforcé cette démesure, parce que le sport contemporain est celui de la performance, du record, d'aller plus vite, plus haut, plus fort, hein, comme dit Pierre de Coubertin. Alors que quand les Grecs faisaient du sport, mais ça n'avait pas de sens, le mot n'existait pas, c'est un mot anglais, hein, pris d'ailleurs d'un ancien mot français, des sports. Ça n'existait pas, mais il y avait une pratique physique. Il s'agissait simplement de battre son adversaire. Mais il n'y avait pas d'idée d'enregistrement de record, d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin.
Mais Pierre-Henri, vous connaissez bien l'histoire de l'alpinisme. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu une sorte de braquage un peu sur ce sport, entre guillemets. Moi, j'ai entendu, il y a ce dernier temps, que vas-y, monte le Mont Blanc, tu seras un bon manager. C'est-à-dire qu'en gros, on parle d'être à la verticale de soi, on parle d'une quête de soi-même. Aujourd'hui, ce sport est devenu aussi une sorte de miroir à une société qui est quand même ultra individualiste et qui demande à pousser les limites. Et c'est vrai que quand j'entends ça, monte le Mont Blanc, tu seras un bon manager, je me dis on est très très loin des origines de ce sport quand même.
Je pense qu'il faut rapatrier la démesure du sport, son esprit de performance, dans un autre discours qui serait un discours de l'épanouissement, de l'éducation, de la fabrication, de la construction de soi. Et d'ailleurs, Elisabeth le dit très bien dans son livre. Elle dit qu'elle a été au bout du bout, de manière complètement déraisonnable, et que maintenant, elle est revenue à l'idée qu'il faut qu'elle se construise et qu'elle s'épanouissent. Vous voyez bien, le vocabulaire de l'épanouissement est complètement différent du vocabulaire de la, du dépassement de soi.
Oui.
Et je dirais même qu'il y a encore un autre discours plus ancien, plus antique qu'on trouve chez les Grecs, c'est le discours de l'accomplissement. C'est-à-dire que dans cette quête de soi-même, dans cette formation de soi-même, on sait qui l'on est, on connaît sa place dans l'existence, dans le monde, et d'une certaine manière, on acquiert ce que les Grecs appelaient une sorte de sagesse.
Mmh.
Bon. C'est pour ça que l'alpinisme a une dimension philosophique. Philosophique, ça veut dire qui aime la sagesse, qui est l'ami de la sagesse. Ça veut dire qu'on ne la possède pas, mais qu'on la recherche et qu'on l'aime, qu'elle nous dirige. Il me semble que ces trois discours, le discours de la performance, le discours de l'épanouissement, de la formation de soi, le discours de l'accomplissement et du savoir de sa place dans l'existence, sont les trois significations du sport qui rentrent en contradiction les unes avec les autres, mais il faut faire avec cette contradiction. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce qu'Elisabeth essaye de faire, et son livre essaye de faire ça.
Elle le fait très bien d'ailleurs. Elisabeth Revol, on a le sentiment à la lecture que vous êtes évidemment très heureuse d'avoir été secourue. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir ici à ce micro. Vous êtes en vie, vous êtes en joie d'avoir été sauvée. Mais il y a aussi une dimension, on sent qu'il y a une partie de vous qui est restée là-haut. Évidemment, il y a Tomek qui n'a pas été sauvé, ça c'est, vous avez dû l'abandonner malgré vous. Mais on sent qu'il y a une partie de vous qui s'est un peu fracassée sur le Nanga Parbat. Vous en avez conscience de ça aujourd'hui ?
Oui, complètement. Je ne suis plus du tout la même et ma vie s'est arrêtée moi sur le Nanga Parbat. Et j'ai dû repartir de zéro, rebâtir cette ruine. Donc cette ruine, elle sera toujours là, dans tous les cas. Il y aura toujours la fondation, je vais dire. Donc oui, le Nanga Parbat a complètement changé ma vie.
Est-ce qu'on peut dire un mot de Jean-Christophe, votre mari, quand même ? Parce qu'il est quand même admirable. Non, parce qu'il est dans votre récit aussi, parce qu'il est là. C'est quand même pas tous les couples qui peuvent vivre une histoire pareille. Il est un mot pour lui, quand même, ce soir, non ? Vous avez un mot pour lui, j'imagine.
Il le sait, je lui ai dit personnellement. Oui. Mais oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire.
Oui.
Qui m'a jamais limité dans ce que je voulais faire et qui a été compréhensive même quand je voulais y retourner cette année. Donc ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Oui, je crois bien. Merci à vous d'être venu ce soir parler d'alpinisme. Je me rappelle que vous pouvez lire ce récit passionnant, je le redis, passionnant. Vivre, c'est aux éditions Artaud. C'est Elisabeth Revol qui raconte donc cette tragédie sur le Nanga Parbat. Et ne vous privez pas de lire également la littérature de Pierre-Henri Frangne, notamment son essai de l'alpinisme aux presses universitaires de Rennes. Hein, c'est bien ça, Pierre-Henri Frangne.
Tout à fait.
En tout cas, merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le retour du Give Me Five de Joey Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
C'est le retour du Give Me Five et on commence avec quoi alors ce soir ?
Eh bien on commence avec une histoire incroyable que vous pourrez retrouver dans le magazine L'Équipe ou sur le site l'équipe.fr. Cette semaine, c'était Halloween, hein, et hier, on fêtait nos morts. Et bien, voici l'histoire de la sépulture de Jim Thorpe, la star du football américain. Jim Thorpe, né dans l'Oklahoma en 1887 et mort le 28 mars 1953 à Lomita, en Californie, est le premier sportif amérindien à avoir eu une carrière internationale. Monsieur, vous êtes le plus grand sportif de tous les temps. C'est ce qui est gravé hein, sur la stèle de l'athlète américain et ce que lui avait dit le roi de Suède qui accueillait les JO de 1912. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Thorpe est le seul indien de l'équipe US et il réalise l'exploit de rentrer aux States avec deux médailles d'or, au pentathlon et au décathlon, alors même qu'il court avec des chaussures dépareillées qu'il a trouvées dans une poubelle parce qu'on lui avait volé les siennes. Jim Thorpe devient ensuite la star du foot américain que l'on connaît, hein, allant jusqu'à devenir le premier président de l'association de football américain, l'ancêtre de la NFL. On imagine donc que l'Amérique lui a érigé un mausolée, comme elle seule en a le secret. Eh bien non, Jim Thorpe est enterré à Jim Thorpe. Oui, vous avez bien compris. Jim Thorpe, ville de Pennsylvanie de 5200 habitants, créée de toutes pièces, pour lui, après sa mort, de la fusion de deux villages en perdition. Alors pourquoi Jim Thorpe propose-t-il encore à Jim Thorpe, d'où il n'était pas originaire et où il n'a jamais pu mettre les pieds ? La faute à une dernière femme aussi fantasque qu'alcoolique, hein, et à des embrouilles entre la famille et les institutions sportives. Lisez le reportage de Philippe Coste pour en savoir plus dans le magazine L'Équipe.
Oui, donc. C'est un excellent papier, un incroyable histoire, un très beau reportage sur ce grand champion à la fin tragique. Ça. Et maintenant, un autre revenant en pleine résurrection sur le bord d'un terrain de foot, Joy.
Diego Maradona, oui. Et effectivement, cette semaine, on célébrait aussi les saints. Et lui s'en est un. Il fêtait également mercredi ses 59 ans, Diego. Et mardi déjà, il était à la fête, le footballeur argentin, au sein du stade de Rosario, où l'équipe de Gimnasia de Plata, qu'il entraîne depuis le début de l'année, on en a déjà parlé, venait affronter les locaux, donc les Newell's Old Boys, un club argentin dans lequel Maradona a fait un passage éclair de 5 matchs, mais dont les fans sont nombreux. Et c'est donc depuis un trône que les supporters de l'équipe adverse lui avaient offert que Diego Maradona a assisté à la victoire 4-0 de ses joueurs, joueurs qui luttent pour le maintien, avant de se rendre à une fête religieuse organisée en son honneur, rien que ça, tous les ans, le soir précédent de l'anniversaire et qui s'appelle le Noël maradonien. Oui. Voilà, pour Diego, rien n'est jamais trop.
Et non, c'est l'église maradonienne. Effectivement, une journée hors norme pour Diego. Et sinon, Joy, quoi d'autre ?
Eh bien, sinon, David Beckham va jouer dans la 11e et dernière saison de Modern Family, la version british de Fais pas ci, fais pas ça. Voilà, c'était une brève.
Oui, c'était bref. On a hâte de voir ça, en tout cas, Beckham dans Modern Family. Quoi d'autre ?
Eh bien, c'est quasiment aussi insolite. Enfin, si vous êtes amateur de bande dessinée, vous connaissez sans doute le chess boxing. Né de l'esprit des crayons et pinceaux d'Enki Bilal dans l'album Froid Équateur en 1992, un savant mélange de boxe anglaise et d'échecs. Et bien, si ce sport existe depuis 2003 dans certains pays, suite à la création en septembre 2019, donc cette année-là, de la Fédération Chess Boxing France, on vient d'apprendre qu'aura lieu le 9 novembre le premier combat officiel en France, et ce sera au Cabaret Sauvage à Paris. Donc 8 combattants pour 4 combats qui, pour gagner, devront mettre leur adversaire KO ou alors gagner la partie d'échecs autant ou bien sur échec et mat. 11 rounds, donc, en tout, c'est fou.
Et oui, c'est complètement fou, du chess boxing. Et pour finir, ton conseil culturel, j'imagine.
C'est ça. Mon conseil culturel cette semaine, c'est le roman graphique « Dans le même bateau » de Zelba, qui paraîtra aux éditions Futuropolis le 6 novembre et dont nous parlerons dans l'émission la semaine prochaine. « Dans le même bateau » ou « Comment raconter la chute du mur de Berlin via les souvenirs d'une championne d'aviron ouest-allemande, de ses rencontres avec les aussi, les sportifs est-allemands, en passant par la description de ce sport méconnu qu'est l'aviron et de sa vie de sportive de haut niveau dans la jeune Allemagne réunifiée, Wiebke Petersen, qui est aujourd'hui l'auteur Zelba, nous plonge dans une petite histoire de la grande. Alors c'est brillamment dessiné, c'est intelligent, il y a des doubles pages explicatives de certaines technicités de l'aviron ou d'un moment de la politique internationale, et c'est vraiment très très touchant. Tout ce que j'aime.
Et oui, on en parlera donc plus en détail dimanche Super. Prochain, puisqu'on aura la joie de recevoir Wiebke Petersen, alias Zelba, l'auteur donc de Dans le même bateau, qui paraîtra aux éditions Futuropolis cette semaine. Merci beaucoup, Joy.
Et de rien, à la semaine prochaine.
Salut.
Bye.
Et voilà, cette 10e émission de notre saison 5 a été coachée, bien sûr, par l'incontournable H2M. Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté à la technique ce soir de Mathias Alléon, merci beaucoup à lui. Merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter avec les comptes L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec donc Wiebke Petersen, alias Zelba, auteur donc de romans graphiques, et de l'historien Nicolas Offenstadt, qui lui a écrit un livre génial qui s'appelle Urbex RDA, qui est une sorte de balade archéologique sur les traces perdues de l'ex-Allemagne de l'Est. Et donc 30 ans après la chute du mur de Berlin, on va vous raconter comment s'est opérée la réunification allemande, mais à travers les équipes sportives de la RDA et de la RFA. Un défi pas simple comme fusion, vous verrez. C'est une histoire de la réconciliation allemande, c'est aussi l'histoire de l'Europe. Voilà, ça ce sera pour donc dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur Inter. On vous attend dimanche prochain. Salut et fraternité.